Avoir raison avec Henry David Thoreau, une émission proposée par Adèle Van Rett. Thoreau est né à Concorde, dans le Massachusetts, aux États-Unis en 1817. Il a 20 ans lorsqu'il découvre un texte intitulé « Nature », dans lequel son auteur, l'ancien pasteur Ralph Waldo Emerson, propose une réflexion inédite sur la place de l'homme au sein de la nature. Thoreau rencontre Emerson, qui enseigne alors à l'université de Harvard et qui l'initie au transcendantalisme. Les deux hommes se lient d'amitié et chacun progresse dans son œuvre. Leurs journaux intimes laissent entendre que derrière l'amitié qu'ils se portent se trouvent plus enfouis et plus profonds des sentiments durs, parfois critiques et réciproques, qui conduiront à un éloignement progressif. Aujourd'hui, le nom de Thoreau, quand il n'est pas massacré par l'accent français, le fameux taureau qu'on a envie de prendre par les cornes, appelle celui de Walden, le livre dans lequel il relate les 2 ans et 2 mois de vie qu'il a passé dans une cabane, construite de ses propres mains. Parfois, l'expression de désobéissance civile lui est associée, mais sait-on que c'est le titre en français de l'un de ses textes? Sait-on que ces pages sur la marche à pied qu'il effectue tous les jours dans les forêts du Maine recèlent des trésors de langage? Que son journal nous délivre des pépites littéraires et philosophiques? Et que Walden est bien plus qu'une bible écologiste? Et si Thoreau avait tout compris? Nous avons 1 heure aujourd'hui pour le démontrer. Bonjour Michel Granger.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature américaine à l'Université de Lyon, spécialiste de Thoreau, auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages, préfacé beaucoup de ces ouvrages. Il vous accompagne depuis très longtemps, non?
Oui. Pour le moment, je passe beaucoup de temps à éditer des œuvres en français, les préfacer, voilà, pour le faire connaître, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Aux éditions du Mot et du Reste, principalement.
Voilà, c'est ça.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Thierry Gilibeuf.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et traducteur de l'œuvre de Thoreau, et oui, notamment de la correspondance de Thoreau, correspondance alors en général, au titre magnifique, « Je vous inonderai de lettres ». C'est une citation, j'imagine?
Oui, c'est un extrait d'une lettre.
Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui pour en parler. Et bonjour Thomas Constantinesco.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris, spécialiste de littérature américaine du 19e siècle, et vous avez écrit un essai qui s'appelle « L'Amérique à l'essai » aux éditions de la rue d'Ulm. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission qui s'appelle donc « Avoir raison avec Thoreau ». On s'est mis d'accord pour dire « taureau » parce que nos accents français sont tels qu'il vaut mieux dire « taureau », même si évidemment certains auditeurs s'en offusqueront. Je vais commencer en vous posant la question directement, parce que l'émission aura lieu en 2 parties. D'abord, nous allons parler de l'œuvre de Thoreau et de ses liens avec les lectures contemporaines, et puis dans un second temps, nous parlerons de l'actualité politique et écologique de ce travail. Mais d'abord, avoir raison avec Thoreau, est-ce que c'est une expression que vous emploieriez? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir raison avec Thoreau? Thomas Constantinesco.
Alors, je commencerai par un détour par l'anglais. Avoir raison, to be right. Et c'est un mot qui revient sous la plume de Thoreau, dans Walden, mais aussi, surtout, dans la désobéissance civile, ce texte dans lequel il revendique ce qu'il appelle un droit à la révolution. Alors si avoir raison avec Thoreau signifie quelque chose aujourd'hui, ce serait peut-être dans l'héritage de ce droit à la désobéissance civile, à la révolution, se revendiquer soi-même comme étant le dépositaire de ce droit à la résistance.
Thierry Gilibeuf?
Je m'inscris à peu près dans la même idée. Pour moi, Thoreau, surtout ce qui me fascine chez lui, c'est son extraordinaire cohérence. C'est-à-dire la cohérence entre ce qu'il écrit et ce qu'il est. C'est pas un professeur de philosophie, c'est pas quelqu'un qui cherche à démontrer. D'ailleurs, quand il fait l'expérience de Walden, il dit pas « faites comme moi », il dit simplement « trouvez votre propre Walden ».
Oui, il dit « moi je fais ça, voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire ».
Exactement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi cette résistance un peu en pas de côté, quoi. C'est-à-dire cette inscription dans la marge, et lui va se tenir à cette règle Alors, en effet, après, il va, au moment quand la période se durcit dans les prémices de la guerre de sécession, il va durcir sa position. Et lui, qui était adopté par Gandhi et Martin Luther King comme un chantre de la non-violence, devient lui-même un chantre de la violence, enfin, la justifie à un certain moment. Donc, ça, c'est peut-être le seul moment où j'ai un peu plus de difficultés, parce que j'ai pour moi une espèce de refus pathologique de toute forme de violence. Mais sinon, il y a une cohérence, mais quotidienne, quoi, chez Soro, qui, moi, me fascine. Et en ça, pour moi, c'est vraiment une partie de ces auteurs qui changent, qui marquent un avant et un après dans un parcours de lecteur.
Quoi. Donc avoir raison avec Toro, c'est savoir désobéir, y compris dans le domaine civil, quand la situation s'y prête. C'est être cohérent au quotidien. Et pour vous, Michel Granger ?
Je partirais plutôt de la notion, mais ça va dans le même sens, de la notion qu'il a de refuser toute idée reçu, d'être toujours en opposition par rapport à la tradition, par rapport à tout ce qui est conforme au dogme. Et donc, le titre de cette émission est quelque chose qui est très provocant. J'aurais jamais imaginé qu'on pourrait dire « avoir raison avec Toro », même si je considère bien que ce qu'il dit m'intéresse beaucoup et qu'il y a une bonne partie de ce qu'il dit que je reprends à mon compte. Mais pour lui, avoir raison, c'est se mettre en opposition à toute proposition qu'il n'a pas réfléchie, qu'il n'a pas fait l'effort de voir, d'analyser. Il y a donc toujours cet antagonisme de départ. Mmh. Et après, bon, il affirme ce qu'il a affirmé, mais c'est toujours un peu en opposition. Et c'est quelque chose que j'aime bien, qui va bien avec avoir raison, mais c'est un avoir raison contre. Dans avoir raison de cette émission, et quand on l'applique à Toro, il y a être d'accord avec lui, accepter ses idées, les utiliser un peu comme un support à ce qu'on dit, mais c'est toujours dans une opposition à la société.
Oui, donc contre qui se place-t-il ? Ouais. Contre la société ? C'est le terme d'anticonformisme dont voilà. Emerson employait souvent, qui peut s'appliquer au travail de Toro.
Oui, mais il y a plein d'autres termes qu'on peut employer. Enfin, c'est un dissident, c'est un rebelle. Il est toujours dans une situation d'antagonisme, d'hétérodoxie. Enfin, on peut prendre plein de mots, quoi.
Est-ce que c'est ce qui le rend sympathique aujourd'hui aux yeux des lecteurs qui sont de plus en plus nombreux en France? Il y a encore 10 ans, 20 ans c'est sûr, 10 ans peut-être un peu moins, en France, peu de gens connaissaient le Toro. Aujourd'hui, Walden, ou La vie dans les bois, selon les éditions, c'est parfois le sous-titre qu'on trouve. Donc l'expérience que Toro raconte dans un journal qu'il a tenu au moment où il a fait cette expérience. Donc il a vécu 2 ans et 2 mois au bord d'un lac qui s'appelle Walden, qui a donné le titre du livre, dans une maison construite de ses propres mains. On y fait référence aujourd'hui un peu plus. On l'entend, les brandit par des discours écologistes, y compris politiques. Est-ce que c'est parce qu'il incarne aujourd'hui quelque chose qui manque, en fait, une proposition de vie qui n'était pas formulée avant, Thomas Constantinesco?
On peut sans doute le dire. Je repartirai de la généalogie que retraçait brièvement Thierry Gilibeuf. C'est sûr que l'héritage de Thoreau chez quelqu'un comme Gandhi, Martin Luther King, plus récemment dans un tout autre contexte plus français, José Bové, ça permis sans doute de rendre ou de donner à Thoreau une actualité. Ce qui est certain, c'est que à son époque, c'est un original à bien des égards, et que la principale opposition pour laquelle on se souvient de lui, c'est son opposition à l'esclavage dans la suite de la guerre que les États-Unis mènent contre le Mexique au milieu des années 1840, et qui lui vaut quelques nuits en prison à Concorde.
Donc Concorde est le lieu, la petite ville dans laquelle il habite.
À côté de Boston, et dont il tirera ce texte qu'on connaît en français sous le titre La désobéissance civile. Et il est en prison pour avoir refusé de payer ses impôts, pour marquer son désaccord avec la politique de son gouvernement à l'époque.
Et là encore, cohérence absolue. Là, on va s'arrêter par besoin de clarté sur 3 axes de son travail. Peut-être celui de l'anticonformisme, celui qui décide un jour de partir vivre loin, entre guillemets, parce qu'en fait, il est à 2 kilomètres hein, de Concorde, de la ville pour aller vivre dans les bois. On va essayer de voir, de comprendre les raisons de cette motivation. Il n'en appelle pas à un départ collectif vers la vie sauvage, loin s'en faut. On va essayer de comprendre aussi ce qu'il appelle par désobéissance civile. Thomas Constantinesco, vous venez de nous expliquer pourquoi il avait voulu désobéir. Et en même temps, il accepte la punition. Il accepte d'aller en prison parce qu'il a lui-même enfreint la loi. Et puis, on verra ensuite les dizaines de milliers de pages que constitue son œuvre et dont on n'entend presque jamais parler. Donc, ce sera l'occasion aussi de les évoquer. Peut-être commençons avec Walden. Il le dit au début du texte, Thierry Gilibeuf, il dit « Je suis parti dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, affronter seulement les faits essentiels de la vie. Et plus loin, je désirais vivre à fond, sucer toute la moelle de la vie, vivre avec tant de résolution spartiate que tout ce qui n'était pas la vie serait mis en déroute. » On y entend ici non pas une manière de lever le poing, de tourner le dos, mais d'embrasser la vie au maximum.
Ah oui, Thoreau, c'est d'abord, c'est ce que j'ai découvert à travers la correspondance en particulier, c'est d'abord, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui avait un lien très fort avec ses proches, donc c'est quelqu'un, pas du tout un ermite, et l'expérience de Walden, c'est tout sauf une expérience érémitique, hein, et ça, il le dit lui-même, ce qu'il tente, c'est une expérience d'autosuffisance. Et là, je reviens toujours à cette idée de cohérence, parce que en 1837, à Harvard, quand il prononce le discours, ce qu'on appelle le discours de commencement, c'est-à-dire la remise de diplôme, lui, c'est un jeune étudiant, un jeune diplômé de Harvard. Il y a le président de Harvard, les professeurs, les parents, les élus locaux, etc. Et lui, il prononce un discours qui fustige l'esprit commercial de ses concitoyens, alors que les États-Unis traversent leur première grande crise financière. Et lui, dans cette Amérique qui est en train de devenir très, où le matérialisme est en train de gagner du terrain, il dit, mais il faut pas travailler 6 jours et se reposer 1 jour. C'est l'inverse. Il faut travailler 1 jour par semaine parce qu'on n'a pas besoin de plus pour subvenir à nos besoins et satisfaire ce qui est vraiment essentiel. Et le reste du temps, il faut le consacrer à ce que les anciens appelaient l'osium. C'est-à-dire le temps pour soi.
Le loisir.
L'oisiveté, mais vraiment au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le temps consacré aux autres, le temps consacré à ce qu'on aime, à marcher, à se reposer si on veut, à lire, à se promener, à discuter. C'est ça l'osium. Le contraire de l'osium, moi j'aime beaucoup cette idée, le contraire de l'osium, c'est le nec osium, ça donnait le négoce quand même. Et j'aime beaucoup l'idée que si on prend l'étymologie, certes contestée, du travail qui est de trépalium, que les deux mabelles sur lesquelles on voudrait que notre monde fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire le travail et le négoce, sont deux termes négatifs, deux termes qui sont donc contraires à la nature humaine, c'est ce que nous dit Thoreau.
Michel Granger, peut-être vous pouvez nous éclairer sur cette décision que prend Thoreau d'aller vivre un jour, alors l'a-t-il prémédité ou non, d'aller vivre dans une maison construite de ses propres mains au bord de ce lac?
Alors, je parlerai aussi de ce qu'il dit à la fin, mais la décision de partir, c'est sans doute parce qu'il n'était pas très bien dans sa peau, il n'était pas très bien à Concorde, il avait mis le feu au bois de Concorde. Pour quelqu'un qui protège la nature, c'est pas très bien. Il n'avait pas de situation. Il avait été pendant un moment instituteur et puis ça n'a pas marché parce qu'on lui demandait de battre les élèves et ça, il voulait pas. Donc, un certain nombre de choses.
Dans une fabrique de crayons aussi, non?
Ah ben ça, c'était la fabrique familiale, qui était aussi une pension de famille, où il y avait pas mal de bruit, il y avait toute la famille, et il n'était pas au calme. Or, il avait à écrire un livre qu'il a écrit pendant qu'il était là-bas, sur un voyage qu'il a effectué avec son frère. Son frère étant mort entre-temps, donc c'était une sorte de mémorial. Donc il y a toutes sortes de raisons qui ont fait qu'il s'est éloigné, pour être au calme, pour être dans la nature, mais éloigné et rentré chez lui quand il voulait, quoi. Enfin, il était à côté. Voilà. Donc, les raisons sont sans doute assez diverses.
Donc, pas théorique, c'est ça que vous dites?
Non, c'est pas théorique. Non, c'est pas. Je pense pas. Ce qu'il dit dans Walden, ça, c'est pour moi le personnage littéraire, la voix qui s'affirme, mais ça n'est pas sans doute tellement les raisons.
C'est ni militant, ni une expérience de pensée, c'est pour être au calme, vous dites. Et ensuite, le récit qu'il en fait.
Voilà. Après, il a fait une sorte de mise en scène de son geste. Et alors, dans la fin de Walden, il explique qu'il a mis un terme parce que le sentier qui allait à sa cabane, ça devenait un sentier battu et donc c'était la routine. Donc il fallait qu'il quitte cette routine parce qu'il avait d'autres vies à vivre. Alors ça, c'est l'explication officielle. Mais dans le journal, on entend tout à fait autre chose. Dans le journal, il dit qu'il ne sait pas pourquoi. Il le dit même deux ou trois fois, il ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir la dimension littéraire, le personnage, la mise en scène de Walden.
Dans quelle mesure, Thomas Constantinesco, ce choix-là et le texte qui en a résulté, est-il influencé ou a-t-il été encouragé par son maître et ami Ralph Waldo Emerson ?
Encouragé, je ne sais pas, influencé certainement. On peut rappeler au plan biographique et pour l'anecdote que Walden, cet étang, se situe sur un terrain qui appartient à Emerson, qui est au bout de la route où Emerson a sa maison. Et c'est certain que cette expérience de vie et le récit qui en suit sont marqués par le texte d'Emerson de 1836 que vous citiez en introduction, Nature, et puis la première série d'essais publiée au début des années 1840, notamment cet essai au titre intraduisible en français Self-Reliance, la confiance en soi.
Compter sur soi, je crois sur qu'il y a soi, traduction qui propose.
Mais qui dit aussi l'indépendance, l'autonomie, et ce sont certainement là des terme clé pour comprendre l'expérience à laquelle Thoreau s'est volontairement prêté.
Parce qu'il est déjà, il étudie la philosophie quand il part à ce moment-là. Vous parlez du transcendantalisme, c'est ainsi qu'a été baptisé ce courant de pensée. Le terme est peut-être pas très bien choisi, enfin paraît un peu barbare par rapport à ce qu'il dit.
Le terme est barbare, assurément. Il résulte, comme souvent, d'une série de contresens qui ont à voir avec la façon dont la philosophie européenne traverse l'Atlantique au début du 19e siècle. C'est un terme qui renvoie à la tradition aristotélicienne, qui renvoie aussi à l'idéalisme allemand, en particulier Kant. Filtré via le romantisme anglais, de Coleridge, de Wordsworth, de Carlyle, et en gros, ce qu'en retiennent Emerson, Thoreau et plusieurs autres écrivains et penseurs de Nouvelle-Angleterre, c'est l'idée de la toute-puissance, de la raison, justement, on en revient au titre de votre émission. Raison qui, chez Kant, s'oppose à l'entendement, mais pour ces penseurs de Nouvelle-Angleterre, c'est surtout la raison comme synonyme de l'esprit, esprit dont il voit une sorte de miroir dans la nature qu'il contemple, et c'est aussi ça l'expérience de Walden.
C'est pas de l'anti-intellectualisme.
Non.
Thierry Gilibeuf, quel lien faut-il faire entre ce choix donc de non seulement de partir vivre dans cette maison qu'il construit de ses mains, mais aussi d'en faire un récit et qu'il publie en 1854? Et ce qui se passera avant 1849 et qui donne lieu au texte donc qu'on appelle en français la désobéissance civile et en anglais civil disobedience. Mmh. Un texte beaucoup plus clairement politique pour le coup.
Alors déjà le vrai titre du texte, quand Thoreau l'a publié de son vivant dans le numéro unique d'une revue éditée par la belle-sœur de Nathaniel Hawthorne, c'est Résistance au gouvernement civil. Le titre Civil Disobedience sera donné après sa mort, je crois que par sa sœur, enfin par ceux qui ont établi les œuvres complètes, je ne sais pas exactement qui l'a donné. En fait, c'est au mi-temps de son séjour à Walden, il retourne au village pour faire rechausser ses chaussures, ressembler ses chaussures, et il est interpellé par ce qu'on appelle le constable, qui est à la fois une espèce de gendarme local, qui fait agence des impôts, qu'il connaît très bien, pour qui va faire des travaux d'arpentage, il s'appelle Sam Staples, et Sam Staples lui dit, vous n'avez pas payé, Henry, vous n'avez pas payé votre impôt, c'est $1, hein, l'impôt. Et c'est une taxe particulière, c'est ce qu'on appelle la taxe de capitation, et c'est une taxe qui n'est pas choisie au hasard, parce que c'est une taxe, quand on la paye, qui vous donne le droit de vote. Et ça n'ôte rien au geste de Thoreau, mais il n'est pas le premier. Il a deux amis à lui qui ont fait ça. Mmh. Amos Bronson Alcott, le père de Louisa May Alcott, c'est-à-dire celle qui a écrit Les quatre filles du docteur Marsh. Et puis un ami très excentrique qui s'appelle Charles Lane. Et tous les deux ont eu des ennuis. Comme Alcott a failli aller en prison, mais une personnalité de Concorde a payé pour lui. Ce qui sera la même chose pour Thoreau. Thoreau, il refuse de payer parce que, comme vous l'aviez dit, il refuse l'esclavage, qui a été quand même le combat de sa vie. Et c'est-à-dire pas un combat théorique. Hein. Il a, si je puis dire, mouillé la chemise. Et puis, il refuse la guerre contre le Mexique. Parce que ce que nous ignorons souvent en France, c'est que les États-Unis vont quand même annexer, au terme de cette guerre, la moitié du territoire mexicain. Voilà, quand même, il faut quand même se représenter. Hein. Et donc, il s'oppose contre ça. C'est l'époque de la destinée manifeste, c'est-à-dire de l'expansionnisme américain. Il s'oppose à tout ça. Et il refuse de payer cette taxe. Et donc Staples n'a pas d'autre choix que de l'enfermer, mais c'est pas Sing Sing à la prison de Concorde. Quand il arrive, les autres détenus sont dehors en train de fumer, on les met juste en prison, on les enferme le soir, dans la, comme ça. Et quand Sherbrooke avait déjà un peu mauvaise réputation, et pour avoir mis le feu au bois justement, pour avoir pour ne pas travailler, pour vivre dans une cabane, et c'est un peu le branle-bas de combat. Il y a une scène bon, donc, qui est sans doute apocryphe, où Emerson arrive et dit « Henry, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur ?» Et Sherbrooke lui dirait « Mais
qu'est-ce que vous faites dehors, vous ?» Ouais. Voilà. Oui, parce qu'il le dit quand même juste rapidement dans ce texte. Il dit « Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d'un homme juste est aussi en prison. »
Exactement.
Donc
exactement.
Pour être cohérent, comme vous dites, eh ben, il faut là être en prison si on estime que les actions du gouvernement
sont injustes. Satan va payer comme ça sous le manteau son amende, et le lendemain il est libéré et il refuse de sortir. Et Staples se souviendra de dire c'est le seul détenu qui a refusé de sortir. Et puis à la fin, bon, il se dit c'est pas non plus utile de mener ce combat comme ça à terme. Donc il part, et avec ses chaussures, il part les refaire se ressemeler, et ensuite il part à la cueillette aux myrtilles. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette idée aussi de geste qui a ensuite été un peu mythifié, mais même pas par lui en fait.
Mais il y a une dimension politique ici, Michel Granger. Si je vais un peu plus loin dans le texte, il dit si un millier d'hommes devaient s'abstenir de payer leurs impôts cette année, ce ne serait pas une initiative aussi brutale et sanglante que celle qui consisterait à les régler et à permettre ainsi à l'État de commettre des violences et de verser le sang innocent. Cela définit en fait une révolution pacifique dans la mesure où pareille chose est possible. Là, il en appelle à ce que tous les gens puissent agir comme lui.
Oui, il aimerait bien, mais en fait, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour que son geste soit autre chose qu'un geste individuel, symbolique. Mais il n'a rien fait, il est parti... Cueillir des myrtilles.
Ah oui, il n'est pas allé militer à proprement parler.
Non, non, et c'est là ce qui est un problème chez lui. Et ça, c'est pour ça qu'il faut essayer de dater l'évolution de sa pensée. À l'époque de la nuit en prison, il en est au geste symbolique qui reste totalement ignoré. Sauf que un an après, ou un an et demi après, il y a cette publication. Donc là...
Donc 1849.
1849. Il y a un tout petit public qui va le lire. Mais en dehors de ça, personne n'est au courant. Et c'est seulement à la fin des années 50, 1850, lorsqu'il y a l'épisode de John Brown, qui commence à être beaucoup plus en sympathie avec l'idée de violence, et qu'il change son fusil d'épaule.
Donc le John Brown, c'est un activiste abolitionniste, voilà. Pour lequel il écrit un plaidoyer en 59.
Voilà, au moment où John Brown a été pris à la suite d'une tentative de saisir un arsenal, et là, bon, il va être condamné, il sera pendu. À ce moment-là, donc dans la dernière partie des années 50, Thoreau est pour la violence.
Dans le texte, on lit « Je pense, quant à moi, que pour une fois, les fusils, charpes et les revolvers ont servi à une juste cause. »
Absolument.
Légitimation du recours aux armes. Voilà.
Donc il a complètement changé. Ce qui, pour moi, enfin, ce qu'on appelle la désobéissance civile, qui est, à mon avis, un mauvais terme.
Pourquoi ?
Parce que la désobéissance civile, dans notre esprit, c'est Gandhi, Martin Luther King. Ce sont des mouvements de masse qui bloque la société. Or, lui n'a fait qu'un mouvement individuel pour rester propre, les mains propres. « Je m'en lave les mains », dit-il. Donc, c'est de l'objection de conscience. C'est tout à fait autre chose.
Mais c'est-à-dire que c'est un individualiste ?
Au départ, oui. Sur la fin de sa vie, non. Il commence à parler de gestion collective, communale, des forêts, des choses comme ça. La propriété privée, il est contre. Mais... dans cette première partie, si on en reste à l'esclavage et aux gestes symboliques, il est individualiste. C'est seulement petit à petit qu'il va s'en éloigner et dire « c'est plus possible, je ne peux pas rester indifférent ». Voilà. Donc il y a une évolution vers la violence et vers une action un peu plus collective, mais c'est même pas vraiment collectif, parce que dès qu'il aura soutenu John Brown, fait quelques discours, eh bien, il retourne à la nature.
Voilà, bah justement, et avant de revenir à ses œuvres qui portent en particulier sur la nature, que ce soit son journal ou d'autres textes, encore un mot sur cette dimension politique, parce qu'elle est difficile à comprendre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de désobéissance civile, vous citiez José Bové, Thomas Constantinesco, Sauvageot, c'est un appel à une action collective qui se justifie tout à fait en ayant recours au texte de Thoreau, puisque lui-même dit un gouvernement injuste, eh bien on doit lui désobéir. Or, ce qui semble ressortir de ce que vous venez de dire, Michel Granger, c'est que non, c'est pas forcément un appel à l'action collective.
Non, non, pas du tout. Je partage complètement la lecture de Michel Granger. C'est au fond le paradoxe, ou l'un des paradoxes de Thoreau, qui est aussi le paradoxe d'Emerson, qui d'une certaine manière est le paradoxe de beaucoup de ces penseurs transcendantalistes qui revendiquent à la fois une forme de désobéissance, de retrait, et en même temps sur fond d'individualisme. C'est-à-dire que... on ne peut pas ériger ce geste de retrait en modèle à suivre, puisque précisément l'individualisme transcendantaliste, si on accepte ces mots barbares, consiste à refuser tous les modèles, et donc à ne pas pouvoir soi-même s'ériger en modèle. Et c'est pour ça que c'est compliqué de faire de Thoreau, comme d'Emerson d'ailleurs, des figures politiques aujourd'hui. C'est au prix d'une forme quand même de forçage de certains de leurs textes. Mais c'est aussi comme ça que fonctionne la postérité littéraire.
Thierry Gilles-Leboeuf.
J'abonde pleinement dans le sens de ce que viennent de dire Thomas et Michel, parce que c'est vraiment exactement ça. Pour moi, c'est le paradoxe de Thoreau, et c'est ce qui me gêne toujours quand je le vois aujourd'hui brandi comme un penseur politique, quand on a fait un Gramsci parfois, des fois, je pense que on se fourvoie complètement. D'ailleurs, ça me surprend toujours que des anarchistes récupèrent Thoreau, parce que c'est plutôt un libertaire. Plutôt qu'un anarchiste, il propose pas de système, lui. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus un individualiste qu'il ne tentera aucune des expériences utopiques communautaires de l'époque. Alors que tous ses copains, tous ses amis l'attendent. Lui, non. Et ça ne l'intéresse pas. Alors il va aller voir, mais quand il va y aller, c'est comme ça en séjour, souvent pour faire des travaux d'arpentage ou parce qu'il a des amis sur place, mais il ne tente pas. C'est quelqu'un qui... Mais l'individualisme, il ne faut pas comprendre ça comme quelque chose de négatif. Hein. Je vous parlais de cohérence. Moi, c'est la deuxième chose alors que je trouve fondamentale chez Thoreau, qui pour moi est vraiment une règle de vie, c'est la réforme de soi. Et voilà, il dit qu'il n'y a qu'une seule réforme qui vaille, et c'est pour ça qu'il ne peut pas s'ériger. Je me réforme moi. J'interdis à quiconque de me réformer, mais je m'interdis de réformer qui que ce soit. Je me réforme moi, et c'est une vie entière pour ça.
Bah, est-ce que là, pour reprendre le titre de l'émission, est-ce que finalement, si on avait raison avec lui, si on appliquait ce que lui disait pour nous-mêmes, peut-être que c'est comme ça que le vrai changement pourrait advenir, non ?
Oui.
Peut-être qu'il a raison sur ce point-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a de changement véritable que de changement qui part de soi.
Oui, ça Michel c'est Granger. Une idée qui revient tout le temps. La réforme ne peut pas être collective si on n'a pas commencé par faire un premier effort. Sauf que c'est quelque chose qui est relativement limité. Et moi, ce qui me paraît plus important chez lui, c'est que, en dehors de cet effort de culture de soi, d'amélioration, de perfectionnisme, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait qu'il ait par exemple écrit un texte qui s'appelle « La vie sans principe », qui vient de son journal de 1851, qu'il a après transformé en des conférences, chacune ayant changé de nom, et autour de l'idée comment est-ce qu'on peut gagner sa vie sans la perdre, la gagner sans perdre son âme. Donc ça fait partie d'un des titres qui a été donné à un moment. Et c'est devenu la vie sans principe. Alors la vie sans principe, ça veut dire la vie du monde des affaires. Et donc il y a une attaque en règle contre le monde des affaires, l'argent, le travail, l'exploitation de la nature, et puis aussi la presse, le monde politique. Donc il y a une critique totale qui est virulente, qui ne débouche sur rien.
Oui, c'est ça.
Puisque ça ne débouche pas sur une association, un syndicat, un parti politique, non.
Donc lui, c'est la nature qu'il ne critique pas, c'est ce qu'il aime par-dessus tout.
Ah oui.
Et alors, qu'en est-il des lectures écologistes, alors, de Thoreau ? Alors, on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais il y a énormément de textes de description de la nature. Il marche beaucoup dans la forêt, il décrit cette forêt. Oui. C'est pas simplement un goût littéraire. Ni poétique, ni esthétique, il y a autre chose derrière.
Si, tout est un petit peu inclus là-dedans, mais c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il est devenu un naturaliste presque scientifique, mais refusant d'être un scientifique, et il a eu cette capacité, par son observation, il a été capable d'établir des liens et des relations entre des divers phénomènes. Si bien qu'il a été capable, par exemple, d'être d'accord avec le darwinisme et d'aller contre le créationnisme qui était enseigné à Harvard par le grand spécialiste, le grand naturaliste. Bon, donc, c'est quelque chose qui est une évolution du naturalisme, du transcendantalisme, jusqu'à quelque chose de presque scientifique.
Thierry Gilibeuf, on peut parler d'écologiste, de penseur écologiste à propos de Thoreau ?
Ben là aussi, ça me gêne un peu, parce que je pense que c'est toujours au prix de distorsion, en fait, de texte. Il faudrait avoir, comme le dit Michel Grangier, il faudrait avoir lu l'ensemble, déjà, avant de pouvoir...
Mais c'est 10 000 pages, c'est ça ?
6 600.
6 600.
Voilà. Il faut avoir lu les 6 600 pages du journal, déjà, pour... C'est-à-dire qu'on a quand même cette possibilité de suivre un homme quotidien, au quotidien, dans l'évolution de sa pensée. Ensuite, il y a un rapport, en effet, naturaliste. Il y a un autre rapport qui est inhérent à la fois au transcendantalisme, à la propre sensibilité de Thoreau, et puis peut-être aussi à sa fascination pour les Indiens d'Amérique, qui est une forme de panthéisme. Il affirme ça. Il va interrompre la publication d'articles qu'il publie dans un journal parce que l'éditeur, sans le consulter, a caviardé trois lignes qu'il jugeait trop panthéistes.
Panthéiste, c'est la nature et Dieu sont une seule et
voilà,
même chose.
Voilà, c'est l'idée de la surâme, c'est ce que de Emerson, c'est l'idée de ce que lui, Thoreau, appelle les lois supérieures de la nature. Et donc, ce qui rejoint le grand esprit indien. Et il y a ce rapport fusionnel, quoi. Et ce rapport de la nature est un tout qui n'a pas de règles, qui n'a pas de principes, pas de propriété, c'est pas un état. Donc, c'est pour ça que ça le fascine.
Un dernier mot, Thomas Constantinescu.
Alors, un dernier mot, peut-être, pour marquer une différence. Oui. Il y a au moins un texte de Thoreau où il n'y a pas de rapport panthéiste à la nature, ou en tout cas, ce rapport se complique. C'est lorsqu'il raconte la fin de d'une de ses excursions dans les forêts du Maine, quand il arrive au sommet du mont Katahdin, et qu'il découvre une nature qui lui est totalement étrangère, avec laquelle il n'a plus la possibilité de rentrer en contact. Et il dit avoir perdu ce qu'il appelle le sens commun, en anglais common sense, qui serait un autre synonyme, une autre variation sur la raison. Et là, ici, c'est bien une expérience de perte de la raison dont il est question.
Et donc, par là même, vous montrez qu'il vous donne raison, car vous montrez toutes ces contradictions depuis le début. Merci en tout cas d'avoir fait en sorte que son travail nous soit un peu moins étranger maintenant qu'il y a 30 minutes. Merci Michel Granger, merci Thierry Gilibeuf et merci Thomas Constantinescu.
Culture, avoir raison avec Henry David Thoreau par Adèle Vendrette.
Désobéissance civile, désobéissance civile.
Alors, je sais que ça a pu choquer certaines personnes qui étaient peu habituées à des concepts comme la désobéissance civique ou l'action non violente et qui avaient du mal à se situer. À partir de comment est-ce qu'on définit une action non violente ? Est-ce que le fait de démanteler un fast-food, de faucher des OGM ou Dieu sait quoi, est-ce que c'est de la non-violence ?
Ce que nous avons fait avec José Bové et les copains à Mainville, l'arrachage d'OGM, nous l'avons fait au grand jour, sans armes ni aucun outil, devant les gendarmes qui nous photographiaient, en disant que puisqu'il ne pouvait pas y avoir de débat public, alors même qu'il y a des outils pour ça comme l'Assemblée nationale, nous réclamions de nous expliquer devant la justice.
Les militants les appellent des actions directes non violentes. Les exemples pullulent sur la toile. Voici par exemple les désobéissants au musée de l'immigration.
C'est quoi, on récupère ce qui nous appartient ? Allez-y, servez-vous !
Là, ce sont les fameux pique-niques sauvages, organisés dans les supermarchés.
Vous parlez à un dangereux délinquant, moi-même, qui a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour avoir arraché un plan d'OGM et à 100 000 euros de dommages et intérêts avec ses copains.
Là encore, des militants verts qui occupent pendant quelques minutes le périphérique parisien. Le nucléaire, la pollution, les OGM, on peut désobéir à tout.
Désobéir, ça met l'accent sur les faiblesses de la démocratie, sur ces trous noirs.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Une place et de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Et la désobéissance civique, pour moi, ça a été important de montrer que comment des citoyens pouvaient se réapproprier l'action, leurs droits, face à l'État. Et c'est Henri David Thoreau qui avait défini le premier la désobéissance civique, quand il dit, eh bien, c'est au citoyen d'assumer sa responsabilité en refusant de payer les impôts. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le titre entier de son petit opuscule sur la désobéissance, il dit que c'est une mode d'action dans un cadre démocratique, dans un pays démocratique. Les gens, souvent, sont surpris, ils pensent que la désobéissance est liée à des États totalitaires.
Et celui qui cite Henri David Thoreau, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, on va continuer de l'appeler comme ça aujourd'hui, c'est José Bové. Bonjour à vous Sandra Logier.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour à vous Manuel Cervera-Marzal.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux donc pour cette deuxième partie de cette émission sur Thoreau. Quand José Bové cite Thoreau et parle de désobéissance civile, est-ce qu'il fait un contresens par rapport au concept, à l'expression forgée par Henri David Thoreau ? Manuel.
En fait, l'expression de désobéissance civile, elle n'est pas dans le texte à proprement parler d'Henri David Thoreau, qui est donc une conférence qu'il a prononcée en place publique et qu'il a ensuite publiée à compte d'auteur. Ça s'appelle initialement « Résistance au gouvernement civil ». Ça a été réédité à titre posthume par son éditeur, qui a changé le titre, qui a appelé ça « Désobéissance civile ». Et l'éditeur, cette expression n'est pas de moi, c'est Thoreau lui-même qui l'employait dans un courrier qu'il m'a adressé. On n'a jamais retrouvé ce courrier, donc on ne sait pas trop. Ensuite, aujourd'hui, il y a des discussions pour savoir s'il vaut mieux dire civique ou civil. Bon,
c'est oui, lui dit désobéissance civique. Dans les archives, on a entendu. Bové, il y a José Bové et Noël Mamère.
C'est ça, et dans leur livre avec Gilles Luneau aussi, ils disent désobéissance civique plutôt que civile. Moi, je comprends ces discussions, mais je les trouve pas forcément d'un très grand intérêt. Ce qui me semble important, c'est de s'accorder sur le fait que derrière qu'on dise civique ou civil, derrière ce qu'il faut avoir au clair, c'est deux idées. Premièrement, que c'est de la désobéissance non violente, donc refus de porter atteinte à l'intégrité physique et même morale de l'adversaire. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, c'est de la désobéissance qui se fait dans un intérêt général. Préserver l'environnement, la santé publique, c'est pas de la désobéissance, je sais pas, je vais planquer mon fric dans un paradis fiscal, non, ça c'est pas l'intérêt général. Donc voilà, si on a bien en tête ces éléments-là, qu'on dise civique ou civil, bon, je pense que c'est un peu du détail.
Sandra Logier.
Oui, je crois qu'en effet, parler de civil ou civique, c'est pas vraiment... C'est vrai que civil serait peut-être une traduction plus appropriée en ce moment, puisqu'on parle quand même beaucoup de droits, voilà, de société civile. Hein, c'est ce qui représente en fait les aspirations des citoyens. Et en effet, elles se traduisent en ce moment dans cette idée de désobéissance. Et comme le disait Manuel très bien, c'est vrai que toute illégalité, toute rupture avec la loi n'est pas une désobéissance. Hein. Si on se met, lui et moi, tous à cager ici, ce qui est tout à fait notre style, donc...
C'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs.
Voilà, ça serait pas en fait de la désobéissance, puisque en réalité, la désobéissance est toujours pour montrer en fait l'iniquité d'une situation. Et donc, si on désobéit à une loi, c'est pour montrer en réalité qu'elle est insupportable et pour créer une discussion publique, hein, pour créer vraiment un débat démocratique. C'est pour ça qu'on désobéit, surtout en démocratie, comme
donc,
le rappelait très bien.
Oui. Mais arracher une plantation, comme l'a fait José Bové, arracher un champ pour dénoncer l'utilisation des OGM et donc recevoir 3 mois de prison avec sursis et 100 000 euros de dommages et intérêts, c'est une désobéissance civile.
Civile.
Parce qu'elle dénonce une injustice.
Tout à fait, et parce que elle montre en fait l'iniquité d'une loi qui va jeter en prison quelqu'un pour avoir
voilà, donc c'est l'iniquité de la loi qu'il s'agit d'énoncer, ouais, selon Thoreau en tout cas, c'est ça.
Et c'est ce qui a été repris dans les luttes pour les droits civiques, alors en l'occurrence pas civil, mais c'est civil rights, c'est pour ça qu'il y a cette question de traduction de civil, mais dans les luttes pour les droits civiques, le cas le plus célèbre, c'est Rosa Parks, donc cette femme qui avait refusé de se lever pour laisser sa place assise à un homme blanc en très bonne santé. Et donc, évidemment, on trouve forcément inique que, forcément, en tout cas, c'est malgré tout la réaction qui a été la plus commune, hein, qu'une femme soit arrêtée pour avoir refusé de laisser sa place dans le bus. Et ça crée, en fait, d'une part un débat, d'autre part, ça met en évidence le fait que la loi doit changer. Et donc, bien sûr, en ce moment, on est constamment dans des situations où la loi elle-même ne paraît pas, en fait, répondre à la fois à ce que veut la société, d'où le mot civil là, et puis ne répond pas aussi même à ce qui se fait, hein, des pratiques des vraiment existantes et acceptées. C'est ce qui s'est passé par exemple lorsqu'il y a une forme de résistance civile aux lois contre l'avortement, au siècle dernier.
Alors comment expliquez-vous l'un et l'autre? Manuel Cervera-Marzal, vous enseignez à l'université d'Aix-Marseille, Sandra Laugier à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que ce texte qui, il y a encore 10 ans, était à peine connu en France, voire inconnu. On parle un peu plus aujourd'hui de Walden, hein, du même auteur, de Thoreau, mais la désobéissance civile, le concept est utilisé, mais le texte peut-être moins lu, soit aujourd'hui autant, car quand même il l'est, brandi par les activistes, les militants politiques, que ce soit du côté de l'écologie, du côté de tout simplement de ceux qui dénoncent les injustices dans ce pays. Que s'est-il passé au cours de ces quelques années?
Bah, pour moi, il y a deux raisons hein, qui expliquent l'écho que trouve ce texte aujourd'hui, qui a été réédité par 6 ou 7 éditeurs en moins d'une décennie, alors que pendant longtemps...
Donc c'est sans doute grâce aux éditeurs, c'est ça?
Alors non, c'est pas grâce aux éditeurs. Je pense que les éditeurs ont répondu à une demande qui est une demande sociale, une demande de la société civile, qui se traduit par deux choses. Le premier, c'est que d'abord, on vit une période d'explosion des inégalités, voilà, à tous les niveaux, et donc ça, c'est une première forme d'injustice. Et le deuxième élément qui caractérise notre époque, c'est... le péril, la catastrophe climatique qui s'annonce. Donc là, il y a deux grandes urgences et face à ça, on cherche des moyens nouveaux de lutter. Et le deuxième élément, c'est qu'on observe que des modes de contestation assez traditionnels, comme le fait de voter pour un parti radical, de manifester, de faire des pétitions, sont des choses qui aujourd'hui, c'est pas qu'elles sont dépassées, mais c'est que un certain nombre de gens sentent que c'est pas suffisant, voilà, de manifester ou de voter. Et donc, ils vont chercher de nouvelles formes d'action, plus radicales, plus subversives, plus efficaces, tout simplement. La désobéissance civile fait partie de cette panoplie des nouvelles formes d'action.
Mais alors ça prête lieu à énormément de contresens, parce que vous le disiez, il suffit pas de désobéir pour être fidèle à ce que Thoreau enseignait lui-même. D'ailleurs, essayons de comprendre ce que lui-même voulait dire. Que fait-il? On l'a rapidement dit en début d'émission, il va passer une nuit en prison parce qu'il refuse de payer un impôt à l'État qui finançait la guerre contre le Mexique. Et il y va de bon cœur. Et il demande à son ami Emerson qui vient le voir, mais la question c'est pas qu'est-ce que je fais en prison, c'est qu'est-ce que tu fais de l'autre côté des barreaux, puisque moi je suis fidèle à moi-même. Y a-t-il une autre forme de désobéissance qu'on lui connaisse, et est-ce qu'il essaye de faire en sorte que les autres fassent comme lui? C'est pas évident. Sandra Laugier.
Alors c'est forcément une action extrêmement individuelle hein, de la part de Thoreau, mais c'est vraiment malgré tout un modèle vraiment tactique hein, de désobéissance qui a été repris de toutes sortes de manières. Hein. C'est vraiment donc se mettre hors la loi, puisqu'apparemment il faut payer ses impôts, hein, pour montrer en fait l'iniquité d'une politique, donc refuser de financer l'État qui fait la guerre au Mexique, mais qui est également esclavagiste. Hein. Donc on a eu une désobéissance exactement parallèle en France avec Hubertine Auclert, qui est cette féministe qui avait refusé aussi de payer ses impôts à un État qui ne lui donnait pas le droit de vote. Hein, donc, alors qu'on lui faisait payer des impôts. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est extrêmement, extrêmement pertinente parce que elle permet, en réalité, de montrer que, voilà, dans certains cas, on n'a pas d'autre solution aussi que de désobéir. C'est-à-dire que Hubertine Auclert, comme Thoreau, hein, qui s'était exprimé hein, sur la question par les voies classiques, des essais, etc. Bon, aucun résultat. Donc, Hubertine Auclert, même chose. Hein, c'est parce que finalement, on n'a pas d'autres solutions. C'est pour ça que pendant longtemps, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais pendant longtemps, la désobéissance, c'était vraiment une action de dernier recours, parce que ni donc les élections, ni les pétitions, ni les manifestations ne donnaient en fait de résultats. Donc ça devient une tactique qui est extrêmement intéressante pour mettre en évidence l'injustice d'une situation.
Ça implique d'accepter la sanction.
Bien sûr, mais au contraire, quand on discute avec certains désobéissants, par exemple les déboulonneurs, ceux qui démontaient des panneaux d'affichage, ils appelaient eux-mêmes la police pour se faire arrêter à l'époque.
Ah oui,
on le ferait moins maintenant parce que peut-être qu'on est...
Donc ça témoigne d'un grand respect pour l'État malgré tout.
Bien sûr.
Parce que le tribunal, l'espace juridique sert aussi de tribune politique en fait. On transforme l'espace juridique en espace public ouvert, espace médiatique qui permet d'éveiller la conscience des citoyens en faisant prendre conscience d'un tort fondamental, d'un enjeu de santé publique dans le cas des OGM, d'un enjeu d'iniquité manifeste dans le cas du racisme. Donc voilà, il s'agit aussi de prendre appui sur le procès pour tout simplement publiciser sa cause. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Et il y a cette phrase, moi, qui m'a frappé dans le texte de Soro, c'est dans lequel il justifie justement son refus de payer l'impôt à l'État esclavagiste. Il dit, sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la place d'un homme juste est en prison. Ça, c'est extrêmement beau. Et il dit d'ailleurs, l'État croit qu'il m'a privé de ma liberté en me mettant au milieu de ces quatre murs et de cette cellule, mais en fait, c'est ridicule. Il dit même, j'ai pitié de l'État. Il m'a privé de ma liberté physique, mais qu'est-elle par rapport à ma liberté spirituelle, ma liberté éthique, celle qui me permet de me mouvoir dans ma pensée, et celle-là, elle est inatteignable, en fait. C'est mon fort intérieur, c'est là que je me sens libre, et il dit, je me suis jamais senti aussi libre que cette nuit en prison, en fait, pour montrer toute l'absurdité, en fait, qu'il y a pour l'État à aller emprisonner les désobéissants.
Mais vous l'avez dit, vous avez parlé de l'importance d'une action individuelle. Dans quelle mesure est-ce que c'est transposable à l'échelle collective ?
En réalité, ces actions sont toujours collectives. Le modèle de la désobéissance civile, malgré tout, c'est des actions publiques, collectives, non violentes. C'est ça les trois. Si on veut donner une définition, c'est cela. Bien sûr, Thoreau, lui, a donné une image beaucoup plus individuelle, puisque ce qu'il importe aussi de montrer, c'est que quelqu'un peut avoir raison, être révolté par une situation ou par une loi, même si toute la société lui dit qu'il a tort et le prend pour un fou, puisque c'est aussi un moment, il dit ça, il dit « je préférais moi-même finalement avoir que la société se précipite contre moi ». Et donc, de fait, on a cette position individualiste au départ qui est très présente chez Emerson, chez Thoreau, qui est vraiment cette idée donc aussi de la confiance en soi et l'idée qu'on peut avoir raison contre l'État, contre la loi, etc. Donc ça, c'est l'individualisme. Mais de fait, la désobéissance civile, dès lors que ça a été repris comme action politique, eh bien, ça a toujours été, alors la reprise la plus immédiate, c'était dans les années 50-60 aux États-Unis, ouais. Ça a été toujours, en fait, des actions collectives, mais qui vont partir d'un sentiment, en fait, de confiance en soi individuelle, puisque pour désobéir, il faut quand même vraiment un grand courage. Et même aujourd'hui, les désobéissants se font souvent mépriser, traiter soit infantile, soit dangereux, l'un ou l'autre, alors qu'il faut choisir. Et donc, il y a toujours cette image vraiment assez négative, dénigrée, de la préciser, désobéissance.
Ouais, quand vous parlez de confiance en soi, c'est pas simplement une notion psychologique, ça fait référence à un concept mis en œuvre par Emerson, justement, self-reliance, qu'on traduit par confiance en soi, c'est pas forcément la meilleure traduction, c'est assez
c'est
compliqué
à compter sur meilleure,
soi,
ouais,
mais c'est se reconnaître soi, soi-même comme auteur de ses actions, ouais. Et se donner à soi-même sa propre loi, c'est au sens fort qu'il faut l'entendre. Voilà. Manuel Saint-Pierre-Marzin.
Soro dit, il m'est plus facile d'endurer les sanctions qui résultent de ma désobéissance, à savoir les amendes, la peine de prison, que d'obéir et de me renier, en fait, moi-même, parce que là, je me dévaluerais. Donc, il y a vraiment une histoire aussi de fidélité à soi-même, de faire ce que me dicte ma lumière intérieure. Voilà, c'est
et pas les autres. Donc, c'est l'anticonformisme. Ouais,
voilà, ça, c'est l'autre notion clé d'Emerson et Thoreau, et peut-être du transcendantalisme, puisqu'on a parlé de ce nom un peu barbare, mais qui désigne un courant bien précis. En tout cas, Emerson thématise le non-conformisme. Il dit qu'il n'y a rien de pire dans une société que le conformisme, à savoir d'agir au nom de ce que fait la majorité. Et c'est très difficile de voir comment d'une telle pensée peut naître une réflexion politique. Puisque qu'est-ce que la politique, sinon la tentative de vivre ensemble? Alors, est-ce qu'on pense à soi ou est-ce qu'on pense aux autres?
Alors, je crois que c'est tout le contraire. Je pense que c'est vraiment la source, en fait, d'une pensée politique qui est très présente, très subversive et qui est un peu étouffée aujourd'hui. Oui. Puisque, de fait, la politique est souvent présentée comme la recherche du consensus. Et bien sûr, l'idée d'une voix dissonante paraît un peu dérangeante ou non politique. Et donc, tout ce que font Emerson et Thoreau, mais leurs héritiers aujourd'hui, c'est de dire que la politique, en fait, elle est ancrée là-dedans, en fait, dans cette voie individuelle qui veut aussi se faire entendre et qui peut parfois être exclue, en fait, du consensus. Donc, il y a quand même, je crois que ce retour de la désobéissance civile, c'est vraiment lié aussi à une critique de l'idée même de consensus, puisque de plus en plus, on s'aperçoit que ce consensus exclut par définition tout un ensemble de voix de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont défavorisées ou qui sont exclues de ce consensus qui devient du coup assez tyrannique en fait et conformiste.
Ce qui implique de se réconcilier avec l'individualisme, Manuel Salvermartel.
Oui, en fait, la difficulté qu'on a, c'est que l'individualisme de Soro, qui est évident et manifeste, aujourd'hui, il est mal compris parce que ce terme d'individualisme, il est connoté très péjorativement. On pense à égoïsme, à recherche de son propre bonheur au détriment des autres et au détriment de la collectivité. Alors que chez Soro, cet acte qui s'inscrit dans une confiance en soi et dans une posture profondément individuelle, il ne se fait pas contre la collectivité, mais en vue d'un nouveau rapport avec la collectivité, d'une réinvention des institutions collectives. Il le dit quand même à plusieurs reprises que... il est en quête d'une meilleure forme de société, d'une meilleure forme de gouvernement. D'ailleurs, s'il a pris la peine d'aller comme ça au milieu de la place de son village pour expliquer les motivations qui étaient les siennes, c'était bien qu'il voulait discuter, qu'il cherchait un minimum à convaincre. Il a publié son livre, il trouvait pas d'éditeur, il l'a publié à compte d'auteur avec son argent. Donc là aussi, il a donné de soi pour faire connaître ses idées à l'autre. Et de fait, si sur le moment, il n'a très peu été suivi, il n'a pas eu son acte et sa personne n'ont pas eu de renommée, n'ont pas fait de disciples, il a fallu attendre plusieurs décennies, voire un siècle.
Ça, vous l'expliquez comment ?
Comment
expliquez-vous qu'il ait fallu attendre aussi longtemps ?
C'était...
pour le lire et le mettre en pratique.
Bon, d'abord, c'était quelqu'un, effectivement, qui était un excentrique par rapport à son époque. Mmh. On a parlé, là, de sa désobéissance par rapport à l'esclavage. Il y a quelque chose, une autre forme de d'hétérodoxie de Soro dont on a moins parlé. C'est son refus de consommer et de travailler. À l'époque, tout le monde aux États-Unis... c'est l'éthique protestante du travail, il faut travailler pour bâtir la société, pour être besogneux, et puis il faut consommer, preuve de réussite. Soro est quelqu'un qui s'est limité à une forme de vie, ce qu'il appelait la simplicité volontaire, donc manger peu, pas de superflu, pas de superficiel, et de même qu'il consommait au minimum, il a toujours refusé de travailler, ou en tout cas il a travaillé au minimum, il prenait quelques petits boulots pour subsister, arpenteur dans la ville, enseignant quelques années, mais la plupart de son temps, il le passait, c'était du temps libre, du temps pour les excursions, naviguer sur les rivières, marcher dans la forêt. Et donc, il était traité de fainéant, évidemment, de paresseux. Mais lui explique que c'est pas de la paresse, le refus du travail. Le refus du travail,
d'ailleurs, il écrit énormément.
Il écrit, c'est pour écrire, c'est pour contempler.
C'est pas qu'il refuse le travail, c'est qu'il refuse d'être, salarié.
Voilà, en fait,
c'est même il dit bien que l'écriture est un travail des mains. Il dit que
puis vivre en autosuffisance demande beaucoup de travail.
C'est un travail. Mais de fait, c'est vraiment l'adepte et celui qui a proposé peut-être le premier sous une forme très attrayante parce que littéraire, donc sa réputation au départ, elle était quand même extrêmement poétique, littéraire. Il a proposé justement ce mode de vie qui serait pas un mode de vie ni consumériste ni de travail. Et donc, d'une certaine façon, c'est le premier, la première figure de d'un mode de vie décroissant, comme on dirait.
Donc ce serait le premier, vraiment vous accordez à dire, même pour la désobéissance civile, c'est le premier ? Est-ce que la Boétie, le discours de la servitude volontaire, n'est pas précurseur ? Enfin,
alors, je crois qu'il y a eu énormément, bien sûr, de positions de révolte dans l'histoire avant Thoreau, mais c'est le premier qui a vraiment donné une définition et qui en a vraiment donner le sens politique, et c'est pour cela que ça a été repris dans tous les mouvements de revendication de droits de la part de personnes qui n'en avaient pas, et que ça a été repris, comme vous le disiez, c'est assez récent, mais c'est quand même depuis le début du 21e siècle, en particulier en France, qu'il y a eu énormément de mouvements de désobéissance civile de la part, par exemple, de fonctionnaires qui refusaient d'appliquer des directives. Donc c'est un modèle politique qui l'a quand même extrêmement bien formalisé en réalité. C'est vrai que cette question aussi de la non-violence est aussi une question qui est venue vraiment au premier plan toutes ces dernières années, puisque c'est vrai qu'un certain nombre de désobéissants ne croient pas autant à la non-violence que Thoreau ou que d'autres désobéissants, les grands désobéissants de l'histoire. Donc il y a une discussion de ce côté-là, dans la mesure où la non-violence de la désobéissance civile, que ce soit chez Thoreau, chez Gandhi, chez Martin Luther King, c'était vraiment une façon d'accepter de se faire brutaliser pour montrer en fait la violence de l'État. Or, cette violence de l'État, elle existe bien sûr toujours, mais c'est vrai que beaucoup de désobéissants ne souhaitent pas, en fait, se faire tabasser pour exprimer leurs droits ou leurs revendications, dans la mesure où l'expression de la violence de l'État qui suscitait de l'indignation encore dans les années 60, maintenant elle est peut-être vue avec plus d'indifférence. Donc quand on voit des gens se faire matraquer, tabasser, ça crée moins en fait de réactions d'indignation que ça n'en a créé quand on a vu par exemple à Selma dans les années donc 50 des noirs et des blancs surtout, c'est ça qui choquait, se faire tabasser par la police. Donc en fait, il y a vraiment je crois que c'est ça qui est aussi l'actualité Thoreau. Mmh. C'est vraiment ce rapport peut-être nouveau à cette question de la violence et de la non-violence comme vraiment une définition de la désobéissance. C'est-à-dire que maintenant il y a des formes de désobéissance et des générations peut-être de jeunes désobéissants qui effectivement ne souhaitent pas forcément avoir cette dimension-là.
Manuel Cervera-Barzel.
Alors sur est-ce que Thoreau est le premier, le précurseur de la désobéissance là-dessus ? En fait, en un sens, la désobéissance, elle est aussi vieille que l'histoire de l'humanité, puisque Adam et Ève croquant le fruit défendu, c'est déjà le premier geste de transgression. On peut évidemment remonter à Antigone qui désobéit à Créon pour obéir aux lois divines et enterrer son frère. Ouais. Chez Étienne de la Boétie, dans le discours de la servitude volontaire, il y a toute une exhortation à désobéir aux tyrans. Mais donc la désobéissance, en un sens, elle a toujours existé. Mais la spécificité de Thoreau, comme le disait Sandra Logier tout à l'heure, c'est que il s'agit de désobéir non pas contre un régime autoritaire, monarchique ou tyrannique, mais en démocratie. Et c'est ça le point important, c'est que autant dans un régime autoritaire, ça paraît légitime, voire même nécessaire de désobéir, puisqu'il y a des violations de droits humains fondamentaux, autant en démocratie, c'est beaucoup plus problématique de désobéir, puisque la loi est le produit de la volonté générale de représentants régulièrement élus. Donc là, il y a un vrai problème, et la question se pose en des termes tout à fait nouveaux. Et Thoreau va être, il me semble pour le coup, le premier à dire qu'en démocratie aussi, on a le droit de désobéir. Ça, c'est un point qui me paraît fondamental.
Et que c'est même une définition de la démocratie, alors qu'on dit souvent c'est les marges, les trous noirs, on entendait. Hein, voilà, non, en fait, sans désobéissance, il n'y a pas de véritable démocratie.
Mais alors, juste sur la question de la non-violence, finalement, quel est l'argument en faveur de la non-violence ? Pourquoi, quand on est victime d'injustice, ne faudrait-il pas répondre ? Pourquoi une violence ne peut-on pas répondre à une autre violence ?
Là-dessus, sur le rapport...
Loin de moins d'inciter quiconque à la violence, hein, mais j'essaie de comprendre finalement.
Non, on a bien compris. On voit la cagoule que vous portez.
J'étais pourtant masqué à la radio.
Il y a une ambiguïté chez Thoreau. Il y en a d'ailleurs beaucoup, voire des contradictions manifestes sur cette question de la
non-violence. Il prend l'arme une fois d'ailleurs. Enfin, il dit être capable de prendre l'arme une fois.
Parce que dans le texte dans lequel il parle de désobéissance civile, il dit qu'il prône une révolution pacifique, et il dit, pour être très concret, une révolution pacifique, ce serait un millier ou plusieurs milliers de citoyens américains qui refuseraient de payer les impôts. Effectivement, refuser de payer les impôts, c'est non-violent, et lui-même dit révolution pacifique. Mais en même temps, 12 ans plus tard, il écrit un autre texte qui l'a rendu célèbre, Plaidoyer pour John Brown, donc qui est un autre militant abolitionniste, qui en gros a tué 5 militaires lors d'une attaque d'un arsenal pour dans l'idée de fomenter une insurrection d'esclaves. John Brown va être pendu et Henry David Thoreau écrit un texte en défense de John Brown, et dans ce texte, il justifie le recours à la violence armée. Il dit, alors moi, pour ma part, personnellement, je ne suis pas prêt à tuer, je voudrais pas être tué, mais parce que pour des dispositions personnelles. Mais je peux tout à fait comprendre, comme l'a fait John Brown, qu'on ait recours à la violence, parce que, et là, il utilise deux arguments. Il dit d'abord, c'est de la légitime défense, c'est des esclaves qui se défendent contre le sort qui leur est imposé. Et il ajoute, par ailleurs, le problème n'est pas l'arme qu'on l'utilise, mais dans quel esprit est-ce qu'on l'utilise. Donc voilà, là c'est la fin justifie les moyens. Et chez Gandhi, là il va y avoir une rupture avec Thoreau, parce que Gandhi, lui, explique que il y a la non-violence, c'est un principe absolu, c'est un principe éthique avec lequel on ne saurait transiger, et c'est aussi un principe stratégique, parce que dit Gandhi, si vous utilisez la violence, vous risquez de perdre, parce que sur ce terrain, l'État est toujours plus fort que vous, et même si vous gagnez, l'histoire nous montre que toutes les révolutions effectuées dans la violence débouche sur l'instauration de régimes encore plus violents que ceux qui les ont précédés.
Quel meilleur argument en faveur de la non-violence ? Un dernier mot, Sandra Logier.
Oui, je crois qu'il y a une image, finalement, une sorte de mise en scène de la non-violence qui était extrêmement importante pour Gandhi, pour les luttes, pour les droits civiques, mais qui peut-être est un peu périmée aujourd'hui parce qu'elle a été récupérée par des mouvements très différents de ceux qui se battent, en fait, pour des droits plus importants pour tous.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de l'actualité de Soro. Manuel Cervera-Marzal, je rappelle que vous enseignez à l'Université d'Aix-Marseille, la philosophie, la sociologie, Sandra Logier, à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Lisez Soro tout l'été.
Tout l'été.
C'était Avoir raison avec Henry David Thoreau, ou Thoreau pour les intimes, une émission proposée par Adèle Van Rett, réalisée par Christine Robert, avec l'aide d'Anaïs Isbert et de Nicolas Berger, prise de son, Anthony Thomasson. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page Avoir raison avec. Vous pouvez également télécharger ou podcaster cette émission pour l'écouter tout l'été.